Chapitre 38e, la question. De tous ces événements, l'empereur Arcadius n'avait pas le moindre soupçon. Il avait fait ses dévotions à l'église des apôtres, avec l'impératrice, la cour et toutes les personnes attachées au parti impérial. L'incendie qui avait détruit l'intérieur de Sainte-Sophie, quelques constructions accessoires et le palais du Sénat, était éteint. On avait dit à l'empereur qu'on pourrait, avec le temps, découvrir et punir les incendiaires. Chrysostome était parti paisiblement pour la Bithynie. Tout était dans l'ordre. De quoi aurait-il pu se tourmenter? Le printemps était si ravissant ce jour-là. Un tendre feuillage enveloppait, comme d'une gaze verdoyante, les bois de châtaigniers et de platanes qui entouraient la ville du côté des terres. Les champs, les coteaux couverts d'une végétation pleine de fraîcheur, offraient partout aux regards les reflets chatoyants des riches couleurs du ciel. La nature célèbre aujourd'hui la fête de sa résurrection. N'êtes-vous pas disposé à en jouir, mon auguste Seigneur ? Dit Eudoxia, toujours prête à distraire son époux. Et lui, toujours prêt à se laisser distraire par elle, accepta volontiers la promenade qu'elle lui proposait. L'empereur, en manteau de soie pourpre brodé de figures d'animaux fantastiques, et l'impératrice, en robe blanche brodée d'or et de pourpre, prirent place dans un char traîné avec une lenteur solennelle par deux mulets d'une blancheur éclatante. Le char était fait de bois précieux, incrusté d'or et de pierres fines. Des rideaux de soie rouge étaient tendus en forme de baldaquin au-dessus de leurs sièges. Leurs pieds posaient sur des tapis de perse. Les harnais des mulets étaient tout brillants de plaques d'or. Quand ce véhicule marchait au soleil et sous le vert feuillage des arbres, on eût dit un char enchanté. Accompagné d'une suite brillante et escorté par les soldats de la garde, le couple impérial sortit de la ville par la porte d'or et se dirigea du côté des vertes collines de la Thrace. Au sommet d'un plateau, qui offrait une vue étendue sur la Propontide et le mont Olympe, on fit une halte pour jouir de ce ravissant tableau. Mais un objet particulier attira les regards de l'empereur. Il remarqua, dans une petite vallée, entre deux collines, un champ tout blanc. « Qu'est-ce que cela, Anthémius ? » demanda-t-il au préfet du palais. « Ce ne sont pas des tentes, car je vois un certain mouvement. Serait-ce un immense troupeau de cygnes ?»« Plût à Dieu, César Auguste, que ce fut des cygnes !» répondit Anthémius avec un profond soupir. « Car la belle et riante campagne n'en serait pas déparée, et vos regards pieux n'en seraient pas attristés. Non, ce ne sont pas des cygnes. C'est une abominable secte de dissidents, qui s'intitule du nom de Pur, et qui se réunissent en cet endroit, parce que dans la ville, grâce à la piété du grand Théodose, les lois défendent tout exercice des cultes hétérodoxes. L'Église de Dieu ne sera-t-elle donc jamais délivrée de ces dissentiments hérétiques ? Dit l'empereur Arcadius avec l'accent d'un profond chagrin. Ce spectacle suffit pour enlever à la campagne tout son charme, toute sa pureté, car il offense la majesté divine. Vivement attristé, il donna l'ordre de rebrousser chemin, et l'impératrice ne put réussir à le ramener à la gaieté sur la route. À peine rentrée dans ses appartements, elle fit venir le préfet du palais. « Je n'aime pas Anthémius que l'on mette inutilement l'empereur de mauvaise humeur, » dit-elle d'un air sombre. « Pourquoi ne lui avez-vous pas laissé croire innocemment à la présence d'un immense troupeau de cygnes ?»« C'est que je craignais, ô divine impératrice, que César Auguste ne poussât plus loin l'investigation et ne vint à découvrir la vérité. » Ce n'était donc pas une secte d'hérétiques. C'était une réunion de plus de 2000 néophytes, en robe blanche, qui, avec quelques prêtres, se sont réfugiés dans cette vallée, moins pour échapper à la prison et à l'interrogatoire au sujet de l'incendie, que pour vaquer librement à la célébration des offices religieux du soir. Les néophytes de la nuit dernière, à titre de partisans de Chrysostome, sont, en effet, bien près de l'esprit de secte, répondit Eudoxia d'un ton adouci. Et dans ces circonstances, il valait mieux parler comme vous avez fait. Je suis satisfaite. Anthémius, qui était resté à genoux, se leva le cœur soulagé. On commençait à craindre singulièrement l'impératrice. La nuit arriva. Nuit profonde dans l'étroite prison où Pentadia et Olympia se trouvaient avec leurs compagnes, nuit profonde dans la chambre vaste et déserte qu'on avait assignée à Gunhilde. Tandis que les premières n'avaient point assez d'espace pour se coucher ou s'asseoir toutes à la fois par terre, et qu'elles étaient obligées de réserver cette place pour les victimes du chevalet et pour Olympia, qui était extrêmement souffrante et maladive, Gunhilde était comme dans un désert caillouteux, sans autre compagnie que celle des bêtes repoussantes, qui établissent leur séjour dans ces lieux sombres, humides et pierreux, les lézards, les crapauds, les rats, les araignées. Les autres avaient la douleur d'être réunies sans pouvoir se soulager entre elles. Gunhild était livrée à toute l'horreur de l'abandon le plus extrême. Mais les âmes pures sont des âmes fortes. Aucune d'elles ne faiblissait. Tout était prêt à endurer des souffrances plus grandes encore. Minuit venait de sonner. Gunhild était extrêmement fatiguée après la veillée de la dernière nuit et les émotions violentes auxquelles elle avait été en proie pendant tout le jour. Elle était épuisée faute de nourriture et tourmentée par une soif brûlante. Elle se laissa tomber sur le sol humide et sale de sa prison. Mais elle ne put trouver un moment de repos car les insectes les plus dégoûtants grimpaient sur elle. La répugnance la forçait à se relever. Elle croisa les mains avec résignation sur sa poitrine. « Oh, vous, Seigneur, à qui j'ai engagé aujourd'hui mon âme, si vous voulez que votre fiancée marche dans la voie douloureuse que vous avez parcourue vous-même, si elle doit, comme vous, être dans le désert avec les bêtes, comme vous, souffrir la faim, comme vous, se trouver en face du tentateur, oh, faites qu'elle en triomphe, et que les anges viennent aussi à elle, non pour la servir comme ils vous ont servi, mais pour lui donner de la force et de la fermeté. » Une lumière vive frappa brusquement ses yeux. Les gardiens parurent avec des torches et la conduisirent devant Optatus, qui voulait achever son œuvre ténébreuse dans le silence de la nuit. Olympia était déjà debout devant son tribunal. « Pourquoi avez-vous mis le feu ? » lui demanda-t-il d'un ton sec et bref. « Vous connaissez ma vie, » répondit-elle. « Celle qui consacre de grandes sommes d'argent à la construction des églises n'ira certainement pas les incendier. »« Oui, votre vie, je la connais parfaitement, » dit Optatus d'un air morose. « Eh bien, si vous y trouvez quelque chose de criminel, » répondit-elle tranquillement, « devenez mon accusateur et laissez à d'autres le soin de me juger. » En ce moment parut Gunhild, entre deux sbires, pâle, mais tranquille et belle dans son calme, comme une âme bienheureuse qui a déjà remporté la victoire sur le monde. Elpis poussa un cri sourd. Olympia chancela, mais reprenant aussitôt ses sens, elle lui tendit les bras. « Oh Dieu soit loué, » s'écria-t-elle. « Que votre premier pas dans l'église vous procure l'honneur d'une semblable confession. »« Parlez-vous sérieusement ?» demanda Optatus avec ironie. « Je ne parle jamais autrement que je ne pense, » dit Olympia. « Et elle n'a dit que ce qui est au fond de mon âme, » ajouta Gunhild. « Bon, » dit Optatus, « la noble Olympia sera donc témoin de la confession de la noble Gunhild. » Il s'adressa alors à cette héroïque jeune fille. « Sachez donc que vous n'êtes pas accusée d'avoir mis le feu, mais d'un crime beaucoup plus affreux, qui va mal avec votre minois hypocrite et votre christianisme fanfaron. Vous êtes accusé de sorcellerie. » Gunhild regarda le préfet avec une surprise inexprimable. « Oui, faites l'étonner, on vous connaît. Vous êtes accusé d'avoir employé des enchantements malins. Moi ? Moi ? » dit Gunhild, étourdi. « Je ne comprends pas. » « Vous allez me comprendre tout de suite. Vous êtes accusé d'avoir jeté un sort sur le jeune prêtre Eugénius, le neveu de la noble Eugraphia, pour le forcer à vous aimer. Oh, c'est odieux !» dit Gunhild avec l'accent d'une énergique protestation. Et elle couvrit son visage de ses deux mains. « Voyez comme vous êtes vite convaincu. Votre confusion est une confession, » dit Optatus. « Je ne suis que honteuse d'être l'objet d'une pareille accusation, » dit Gunhild. « L'orgueil vous sied mal. » « Pour cela, vous avez raison, » répondit-elle. Et un sourire céleste brilla dans ses yeux et sur son visage. Olympia n'avait pas revu Gunhild depuis son baptême. Elle la trouva transfigurée. Tout ce qu'il y avait de dur et de sec dans son être et ses manières s'était adouci, fondu au rayon de la grâce. « C'est le sourire des saints, » souffla Elpis à l'oreille d'Olympia. « Ainsi, vous avouez votre crime ?» demanda Optatus. « Je ne l'ai point commis. Si vous mentez, je suis forcé de vous faire mettre sur le chevalet pour vous obliger à reconnaître la vérité. « Je ne l'ai pas commis. » Sur un signe d'Optatus, les sbires s'approchèrent d'elle. « Pitié, Optatus !» s'écria Olympia, transportée de douleur et d'effroi. « Cher Olympia, jamais pour vous-même vous ne prononceriez ce mot dans ce lieu, » dit Gunhild avec douceur. « Laissez-moi dans votre âme à la même hauteur que vous-même. » Elle éloigna les sbires d'un geste et déposa d'elle-même son voile, son manteau et ses souliers. Une poignée de ses cheveux blonds tombait égarée. Elle les rassembla et les roula simplement autour de sa tête, de sorte que son beau visage pâle semblait une perle enchâssée dans un cadre d'or. Optatus fit signe aux sbires une seconde fois, et une seconde fois Gunhild l'éteint à distance. Dans sa longue robe blanche, image de la pureté de son âme, elle marcha vers l'horrible appareil de torture, Avant d'y monter, elle se tourna du côté d'Olympia. « C'est lui, le malheureux, qui m'a ouvert le paradis terrestre, la Sainte Église. C'est lui qui m'ouvre aujourd'hui le paradis du ciel. Puisse ma souffrance servir au salut de sa pauvre âme. Et maintenant, adieu, chère Olympia. Au revoir dans le ciel. « Allez-vous réellement mourir ?» s'écria Olympia. « Je crois que oui. Une âme a imploré de moi son salut. Ici-bas, je ne pouvais la sauver. Peut-être serai-je exaucé quand je prierai pour elle auprès du trône de Dieu. » « Adieu donc, douce et tendre victime, » dit Olympia, touchée jusqu'aux larmes. Tremblante d'émotion, elle s'appuya sur le bras de Théoné. « Vous divaguez, tant la crainte vous trouble, et vous êtes obligé cependant de confesser la vérité. Hâtez-vous donc, si vous ne voulez pas qu'on vous aide, » cria Optatus avec impatience. Gunilde s'étendit sur le chevalet. « Seigneur, » dit-elle, « je me recommande à vos saintes plaies. » Les bourreaux se mirent à l'œuvre. Ils lièrent Gunilde par les pieds et les mains. Ils lui passèrent au cou une corde attachée au poteau. Ce raffinement n'était pas employé dans les cas ordinaires. Mais Optatus avait compris toute la portée des recommandations que Graphia lui avait fait faire par Florus au sujet de Gunilde. Quand tout fut prêt, le préfet reprit la parole. « Reconnaissez-vous que vous avez fait usage d'enchantements diaboliques ?»« Je ne l'ai point fait, » répondit Gunilde, d'une voix claire et distincte. Les bourreaux firent leur ouvrage. « Soutenez-la, ô Seigneur Jésus crucifié, » dit Olympia du fond du cœur. Un profond silence régnait dans le prétoire. « Assez !» cria Optatus au bourreau. « Avouez-vous maintenant ?» demanda le préfet. Le silence ne fut pas troublé. « Elle est sans connaissance, enlevez-la, » dit le préfet froidement. Les bourreaux délirent Gunilde, et l'un d'eux l'enleva du banc sur ses bras. Sa tête, ses membres étaient sans mouvement. Il la déposa à terre devant le préfet. « Seigneur, » dit-il à Optatus, « elle est morte. » « L'agneau du sacrifice a été étranglé, » murmura Elpis d'une voix éteinte. « Elle jouit maintenant de la paix éternelle, » dit Olympia qui venait de trouver une force surnaturelle. Puis, se tournant vers Optatus, « Vous permettez que j'emporte sa dépouille et que je lui rende les derniers honneurs ? Prenez-la, » dit-il durement. « Votre jugement personnel viendra plus tard. » Il sortit de son tribunal. La fille d'un traître, traîtresse elle-même envers l'impératrice, a reçu sa récompense, murmura-t-il d'un air sombre pour étouffer le cri de sa conscience. Il chercha à dormir, mais il ne put goûter aucun repos sur son lit. Il se releva et s'occupa de rédiger ses sentences contre ses divers accusés. De grand matin, un domestique lui annonça le noble Eugénius. « Qu'il entre, » dit le préfet. « Mais il faut que 5 ou 6 hommes de garde se tiennent à la porte, tout prêts à entrer au premier signal. » Le domestique sortit et Eugénius entra. Il était pâle et défait. « Vous paraissez très souffrant, » lui dit Optatus. « Remettez-vous. Que puis-je faire pour vous servir ?»« Une simple réponse, » dit Eugénius en restant debout devant le préfet. « Je viens du palais de justice et j'ai appris que le lecteur Euthémius, une servante de Pintadia et la noble Gunilde, avaient perdu la vie à la suite des épreuves de la torture. Cela est-il vrai ?»« Pour la servante de Pintadia, je ne le savais pas encore. »« Quant à Gunilde et à Euthémius, la chose est exacte, » répondit Optatus d'un air tranquille. « Que l'enfer vous confonde !» cria Eugénius en se précipitant sur le préfet avec un poignard qu'il tenait sous son manteau. Mais Optatus, qui avait surveillé tous ses mouvements, évita le coup et appela la garde pendant qu'Eugénius, entraîné par la violence de son propre mouvement, roulait à terre. « Liez-le et conduisez-le dehors. Il est furieux, » dit Optatus, pâle de frayeur. Quelques heures plus tard, l'évêque Sévérian paraissait devant l'impératrice. « Votre présence, mon vénérable père, m'apporte toujours quelque chose de bon, » dit-elle avec beaucoup d'obligeance. « Aujourd'hui, que m'annoncez-vous ? Je vous apporte la nouvelle, ô divine impératrice, que l'interrogatoire des accusés au sujet de l'incendie est terminé, sans avoir révélé rien de positif. Cependant, Tigrus et Sérapion sont bannis de Constantinople, non pas tant à cause de l'incendie que pour leur fanatisme insensé, turbulent à l'égard de Chrysostome. Ah, j'approuve cela. Oui, je suis très content, Optatus. Vous le serez plus encore, généreuse souveraine, en apprenant qu'il a été extrêmement indulgent pour les dames comprises dans l'accusation. Les diaconesses Pintadia et Olympia ont été remises en liberté, avec injonction de se soumettre au nouvel ordre de choses ecclésiastiques, sous peine, en cas de récidive, d'être punies d'une amende pécuniaire et du bannissement. Maintenant, il faut leur laisser le temps de se remettre, car toutes deux sont très attristées et très abattues de la mort de trois jeunes néophytes. Trois néophytes et des jeunes filles, c'est bien triste. Mais d'où vient cela ? Demanda Eudoxia avec un vif intérêt. L'une a péri dans le tumulte qui s'est fait au moment où l'on s'est emparé de Chrysostome. La seconde était d'une santé extrêmement faible. Elle est morte en prison. Et la troisième ? Et la troisième ? Répéta Eudoxia, inquiète de l'interruption de l'évêque. Pas de victoire sans sacrifice. Pas de triomphe sans croix, reprit-il. Vous l'aimiez, cette troisième. Cependant, vous l'aviez déjà perdue, par son ingratitude.
Gunhild, morte ? S'écria Eudoxia, pleine d'effroi. Morte, elle, si belle, si florissante ? Comment cela est-il possible ?
L'agitation morale de ces derniers jours a dépassé ses forces de jeune fille. Agitée d'une fièvre violente, elle a divagué dans son interrogatoire. Et bientôt après, une attaque de nerfs l'emportait. Elle a rendu le dernier soupir sans faire entendre une plainte.
« Oh, Gunhild, ma chère Gunhild,
j'ai perdu en vous un trésor inappréciable, » fit Eudoxia tout en pleurs. « Elle était déjà perdue pour vous avant de mourir, ô ma souveraine. Pensez-y. Embrassez les événements dans tout leur ensemble. C'est de la suite de cette catastrophe que Gunhild meurt et que vous devenez l'impératrice absolue de l'Empire d'Orient. Vous avez raison, mon vénérable père, » dit Eudoxia en séchant ses larmes. « Je ne veux pas pleurer, je veux au contraire me réjouir. Car à partir du moment où cet homme a été chassé, l'Église a été délivrée d'un tyran. Et c'est depuis lors seulement que je suis réellement impératrice, n'ayant personne à craindre. »